Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et on est ensemble évidemment jusqu'à 20h avec le journal et juste après on ouvre comme chaque soir le Club des Idées. C'est le nouveau rendez-vous d'Europe Soir. On vous décrypte le monde qui change et on prend le temps de se faire son opinion. Ce soir, les tests anti-Covid en question. Plusieurs grands médecins dénoncent la politique de dépistage ciblé du gouvernement. Ça n'est pas la bonne méthode, disent-ils. Il faut tout revoir pour freiner l'épidémie. Alors que propose-t-il concrètement? Que faire aussi pour vous qui nous écoutez? Si vous avez un doute sur une possible contamination, on les entendra et on en débattra avec nos invités. Dans 20 minutes, ils répondront à toutes les questions. Et puis 19h15, la carte blanche du Club des Idées avec ce soir le coup de griffe de l'économiste Gaël Giraud. Stop aux actionnaires voraces, nous dira-t-il. Mais d'abord le journal avec Isabelle Millet. Bonsoir. Il est 19h sur Europe 1.
Ce sur quoi on doit être beaucoup plus vigilant, ce sont aussi tous les événements privés où il y a un relâchement. Et donc il faut peut-être rappeler à certaines vigilances.
Les fêtes de famille sur le grill dans le viseur des autorités sanitaires et donc, on vient de l'entendre du président de la République, on a tendance à beaucoup moins y respecter les gestes barrières.
La sécurité au cœur d'un séminaire gouvernemental demain, un sujet qui fait déjà l'objet de réunions régulières au niveau local, c'est le cas notamment dans les Bouches-du-Rhône.
En Biélorussie, le président fait taire ses opposants les uns après les autres, ou plutôt les unes après les autres, nous dira Didier François. Loukachenko cible en effet les femmes. 15 juillet 2018, ça vous dit quelque chose? Les Bleus remportent la Coupe du Monde face à la Croatie. Deux ans plus tard, les deux équipes se retrouvent ce soir dans un contexte bien, bien différent.
La tendance météo avec vous, Anissa. Prudence dans le sud pour demain.
Oui, ce soir et cette nuit, effectivement, Julien, dans le Roussillon particulièrement, les chutes de pluie devraient être importantes. Ailleurs, le soleil est au rendez-vous. C'est encore une journée estivale qui se profile. Je vous explique tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Face au rebond de l'épidémie en France et à la multiplication des contaminations au sein même des familles, cet appel donc aujourd'hui d'Emmanuel Macron.
Ce sur quoi on doit être beaucoup plus vigilant, ce sera l'objet du Conseil de défense, entre autres, de la fin de semaine, ce sont aussi tous les événements privés. Parce que quand on regarde les études, les analyses qui sont faites, beaucoup de nos concitoyens se contaminent dans les moments de vie privée, où il y a un relâchement. C'est bien normal. Vous savez, il faut responsabiliser et en aucun cas culpabiliser. Et donc culpabiliser, ça veut dire, bon, bah, on essaie tous de vivre, ces contraintes nous pèsent tous et toutes, mais il faut responsabiliser, c'est-à-dire à chaque moment... On a une part de l'action collective. Et donc, il ne faut pas se relâcher dans les moments de vie privée. Et donc, il faut peut-être rappeler à certaines vigilances sur ce point.
Le chef de l'État au micro, Europe 1 d'Adrien Beck, à 3 jours de la tenue d'un nouveau Conseil de défense. Le président préoccupé, hein, on l'entend, par ces regroupements familiaux. Alors, sont-ils vraiment source de contamination, comme le dit le président? Et quelles sont les règles, Ève Roger?
Alors, c'est vrai, ces événements festifs, que sont un repas de famille ou un mariage, sont la troisième source de clusters, selon Santé publique France, après les entreprises et les établissements de santé. Alors, pourquoi? Déjà, les gestes barrières sont moins respectés, puisqu'il n'y a personne pour vous rappeler de garder le masque ou d'utiliser du gel hydroalcoolique, comme votre chef de service au bureau, par exemple. Et puis, c'est difficile de ne pas embrasser les gens qu'on aime, de ne pas discuter avec eux de façon rapprochée. Alors, j'ai interrogé Hélène Rossino, elle est médecin spécialiste de santé publique, qui nous propose quelques pistes pour faire mieux.
Il fait encore beau en ce moment. Donc, si on arrive à faire sa réunion en extérieur, il y a beaucoup moins de risques de contamination qu'en intérieur. Si on doit la faire en intérieur, on aère, pas d'embrassade, et puis on fait attention aux personnes vulnérables. Et un petit point quand même, dont on parle très très peu, attention aux cacahuètes et aux pistaches. Ça se transmet avec les mains, donc les cacahuètes et les pistaches sont des nids à Covid.
Et voilà, on n'y pense pas toujours. On peut aussi limiter le nombre de personnes, même si ça peut paraître rabat-joie, fractionner les invitations. Une fête de famille à 5, et ben c'est moins risqué qu'à 20. Des pistes qui seront sans doute sur la table du Conseil de défense vendredi, car c'est vrai, pour l'instant, il n'y a aucune règle pour les événements festifs et privé, juste des recommandations, limiter le nombre de personnes, respecter les gestes barrières et protéger les plus vulnérables.
Et éviter les cacahuètes et les pistaches. Merci Ève Roger, chef de service Société d'Europe 1.
Parfois, pas besoin de regroupement, partager une voiture pendant quelques heures peut être source d'inquiétude.
Et c'est ce qui est arrivé au Premier ministre Jean Castex. C'était samedi, pendant 2 heures dans le véhicule du patron du Tour de France, Christian Prudhomme, testé positif hier.
Du coup, branle-bas de combat, le chef du gouvernement va à son tour se faire dépister ce soir, mais aussi samedi prochain, tout comme son ministre de l'Intérieur avec lequel il a déjeuné aujourd'hui.
Jean Castex, qui attend ses résultats, c'est imminent. Cas contact donc, comme le sont beaucoup de Français, mais pas inquiet. Hein, le Premier ministre, il va néanmoins bien sûr appliquer les consignes, s'isoler le temps d'obtenir tous ses résultats et il continuera quand même à exercer ses fonctions.
Le gouvernement qui tiendra donc demain, par visioconférence, son séminaire de rentrée axé sur le séparatisme et la sécurité, en plein débat sur la montée de la la violence dans la société, le gouvernement se sait très attendu sur ces sujets.
Et il pourrait peut-être s'inspirer des Bouches-du-Rhône dans ce département. En effet, depuis 2 ans et demi se tiennent des conseils de sécurité. Ce matin, c'était le 1500e à Marseille. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, de trouver des solutions au niveau local pour lutter contre la petite délinquance qui pourrit le quotidien des habitants, Nathalie Chevance.
Oui, c'est ça. Vol, petit trafic, incivilité, stationnement anarchique, problème de voisinage. Autant de faits rapportés par des bailleurs sociaux, des commerçants, des enseignants, des citoyens, comme Jeanne qui habite le quartier de Noailles.
J'ai été menacée verbalement par le propriétaire d'un bar dont on dit qu'il fait trop de bruit. On a planté un couteau dans mes volets quelques jours après. Et du coup, j'ai été très surprise du retour que j'ai eu de soutien. La police nationale, la police municipale, tout le monde s'est vraiment penché pour le coup sur cette affaire alors que ça faisait des mois et des années, voire il y a tous les riverains du quartier qui n'en peuvent plus et qui avaient l'impression de crier dans le désert.
Fermeture administrative, vidéosurveillance, mutualisation des services de police, autant d'outils pour tenter de diminuer ce sentiment d'insécurité bien réel dans le secteur de la maire Les Insoumis, fraîchement élue, Sophie Camard, qui croit au dispositif.
Je suis plutôt agréablement surprise parce que quand tous les acteurs sont autour de la table, ça permet vraiment d'avoir des contacts, de savoir où en est chaque interlocuteur. Moi, je pense qu'on va beaucoup s'investir dans ce type de structure et il nous a quand même bien été remonté pendant la campagne qu'il fallait qu'on lutte contre ce sentiment d'abandon et d'impuissance.
Avec aussi la volonté du préfet de police de faire connaître au plus grand nombre ces conseils de sécurité d'arrondissement qui se réunissent 2 fois par mois.
Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille. Matignon confirme à l'instant, test négatif pour le Premier ministre Jean Castex qui va néanmoins continuer à travailler à l'isolement dans son bureau jusqu'au prochain test de dépistage qu'il effectuera samedi. C'était l'effroi. Je n'arrivais plus à réfléchir. Les mots de la dessinatrice Coco, rescapée de la tuerie de Charlie Hebdo, qui a témoigné aujourd'hui à la barre, comme plusieurs autres survivants de ce massacre.
Oui, maître Jean Chevet est avocat de la Défense, ce qui ne l'a pas empêché d'être bouleversé, vous allez l'entendre, par ces témoignages.
Nous venons d'entendre le témoignage de 3 personnes qui ont été absolument admirables de dignité et d'analyse de ce qui s'est passé. Et on a vu avec toute l'émotion qu'elles avaient et les larmes qu'elles ont versées pour parler de leurs copains, de leurs collègues qui étaient morts et qu'il fallait leur porter secours en les enjambant, en marchant dans le sang. C'était véritablement des récits absolument émouvants. Cela, je pense, marque tous les esprits. Et ça fait partie de la reconstruction psychologique. Et la justice va les reconnaître comme des victimes à part entière. Et ça fait partie de la guérison.
Maître Chevet, avocat de la Défense dans ce procès des attentats de Charlie Hebdo, au micro européen de Justin Morin. L'actualité économique est une nouvelle victime de Covid. Le constructeur de bateaux Beneteau annonce qu'il pourrait supprimer jusqu'à 1390 emplois dans le monde, soit 1/6 de ses effectifs. Et puis quand ça ne veut pas, Boeing a repéré un nouveau problème sur son 787 Dreamliner. C'est le 3e. En conséquence, les livraisons sont retardées.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
19h09, c'est la suite décidément de votre journal ce soir avec Isabelle Millet. France-Croatie en foot ce soir, ça rappelle évidemment des souvenirs.
Je vous le confirme. Certes, ce n'est pas France-Allemagne, mais ça reste quand même une affiche particulière. Cyril de la Morinerie, vous êtes en direct.
Oui, tout de suite, on pense bien sûr à ce 15 juillet 2018, inoubliable, et ce succès 4-2 face à la Croatie.
La France est championne du monde pour la 2e fois de son histoire.
Mais c'est ce succès en demi-finale de la Coupe du Monde 98 face aux Croates de Boban et Šuker qui a fait entrer les France-Croatie dans la légende avec ce doublé éternel de Lilian Thuram.
But de Thuram qui a vu l'espace et qui a frappé à l'instinct. Peut-être le but qui va conduire les Français à la finale de la Coupe du Monde.
Vous les avez reconnus, Eugène Saccomano et Pierre Lubas qui nous font encore vibrer. 22 ans plus tard, et bien cette opposition d'habitude frissonnante n'aura pas la même saveur. Le Stade de France ce soir sera vide.
En effet, Cyril, cette fois, autre ambiance, effectivement, autre contexte, autre compétition et un sélectionneur qui doit composer avec une situation inédite.
Oui, il faut se passer d'abord des services de l'unique buteur de samedi dernier, Kylian Mbappé, positif au Covid-19, forfait qui fait beaucoup parler, qui inquiète. Ses autres coéquipiers, tous négatifs, sont désormais des cas contacts. Mais le match, l'a redit tout à l'heure Bernard, le président de la Fédération Noël Le Graët, se tiendra bien ce soir et Didier Deschamps devrait procéder à 7 changements avec notamment Martial, Ben Yedder pour épauler Antoine Griezmann en attaque. Le jeune Kamavinga qui débutera sans doute ce soir sur le banc pourrait fêter ce soir donc sa première sélection.
Et on suivra ça en direct grâce à vous, Cyril de la Morinerie. Rencontre en fil rouge sur Europe 1, coup d'envoi à 20h45. On a parlé tout à l'heure du patron du Tour de France, dépisté positif au Covid, mais on ne nous a pas encore dit que c'est l'Irlandais Sam Bennett qui a remporté la 10e étape au sprint à l'île de Ré. Roglic reste en jaune.
19h11 en Biélorussie, maintenant la chasse aux opposants qui s'intensifie.
Oui, dernière victime en date. Elle s'appelle Maria Kolesnikova et elle a été mystérieusement enlevée. On en parle ce soir avec notre spécialiste des questions internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Paris aujourd'hui condamne les arrestations arbitraires et l'exil forcé d'opposants. L'Europe demande la libération de tous ses opposants. Sauf que le président Loukachenko n'a pas l'intention de céder. D'ailleurs, il vient de dire que s'il tombe, le prochain sur la liste, ce sera la Russie. Lui qui a fait de la répression sa marque de fabrique, si l'on peut dire.
Oui, alors avec cette méthode extrêmement particulière qui porte la signature de ses services et qui consiste à enlever les opposantes en pleine rue, souvent la nuit ou au petit matin, quand elles rentrent de chez elles ou qu'elles en sortent. Ce sont toujours des femmes, toujours kidnappées par des hommes masqués en civil, lourdement armés, mais ne portant aucun signe apparent. Ils surgissent de nulle part, les menottes, les coiffes d'un sac de jute et les jette à l'arrière d'une camionnette qui les conduit à vive allure vers une destination inconnue, toujours une cellule froide, anonyme, dans laquelle les coups et les menaces se succèdent sans répit jusqu'à ce qu'elles acceptent la seule issue qui leur est offerte, l'exil forcé, après des aveux filmés d'un crime qu'elles n'ont jamais commis. C'est la méthode de Loukachenko que le président bélarusse a lui-même baptisée refroidir les têtes brûlées, figurez-vous. Eh bien, c'est un scénario qui s'est répété à plusieurs reprises depuis sa réélection grâce à un scrutin très lourdement truqué. C'était le 9 août dernier. Eh bien, dès le lendemain du vote, la candidate qui s'était présentée contre lui, Svetlana Tikhanovskaya, a mystérieusement disparu dans la nuit avant de ressurgir en Lituanie, où les agents bélorusses l'ont conduite de force. Et puis quelques jours plus tard, c'était une autre opposante, sa colistière, Olga Kovalkova, qui a subi, elle, une expulsion vers la Pologne.
Et c'est le sort qui attendait Maria Kolesnikova ?
Absolument. Elle a été kidnappée lundi soir et transférée au matin vers la frontière ukrainienne après une nuit d'intense pression. Mais cette opposante extrêmement déterminée, qui est la troisième figure de ce triumvirat féminin qui a osé défier Loukachenko pendant l'élection présidentielle, eh bien, elle n'a pas cédé aux menaces. Et elle a déchiré son passeport devant les gardes frontières médusés, ce qui fait qu'elle n'a pas pu être expulsée en Ukraine et que les services bélarusses ont dû officiellement annoncer son arrestation. Ce matin, elle va donc rejoindre en prison les opposants masculins, Sergueï Tikhanovski et Viktor Babariko, qui eux ont été arrêtés avant le scrutin et qui croupissent depuis sans jugement dans les geôles de Loukachenko.
Merci Didier. L'œil de Didier François, tous les soirs, c'est dans le journal de 19h.
Un dernier mot pour vous dire que Valérie Pécresse annonce à l'instant qu'un accord a été trouvé sur le financement des transports en Île-de-France. C'était un sujet sensible, on le sait, on en avait beaucoup parlé sur Europe 1, la présidente de région, qui, ça tombe bien, sera demain matin l'invitée d'Europe 1 à 8h15 avec Sonia Mabrouk. Elle aura l'occasion de nous détailler cet accord.
L'actu, ça se passe sur Europe 1. Merci Isabelle, le journal d'Isabelle Millet, la météo.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Anissa, vigilance pour les prochaines heures dans le sud, notamment ça se gâte.
Oui, la forte dégradation qui est en train de toucher la Catalogne arrive dans les prochaines heures sur l'Occitanie et particulièrement sur le Roussillon, avec une forte activité électrique pour cette nuit et demain. De forts cumuls de pluie, je vous le disais tout à l'heure, jusqu'à 3 semaines de pluie par endroit. Donc prudence si vous nous écoutez dans le Roussillon, en Occitanie ce soir. Sur le pourtour méditerranéen, demain le ciel est gris, assez couvert avec des petites averses. Je vous rassure, cet épisode très pluvieux va durer 24 heures. Le beau temps sera de retour dans
c'est
le sud.
C'est promis. Hein.
C'est promis, le beau temps sera de retour dans le sud. Jeudi, ça sera moyen et vendredi, ça sera vraiment du grand soleil. Sur le nord de la Seine, demain, quelques nuages, quelques grisailles, mais dans l'après-midi, le soleil fera de belles apparitions ailleurs. C'est du très très beau temps, encore une journée estivale. 22 degrés à Saint-Brieuc, 23 à Caen et Rodez, 24 pour Lille, 25 à Paris et Quimper, 28 à Nîmes et Nice, 29 à Tours, 30 à Lyon et 32 degrés demain pour Périgueux.
Bah oui, Anissa, quand vous voulez.
C'est bon ?
Ça marche ?
Je reviens demain ?
Oui, absolument. Merci Anissa pour cette tendance météo. 19h15, on ouvre maintenant, comme chaque soir, le Club des idées.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Avec d'abord la carte blanche de l'un de nos des éditorialistes du Club des Idées, un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Et ce soir, j'accueille un grand nom de l'économie, ancien chef de l'Agence française de développement. Il est aussi prêtre jésuite. Bonsoir Gaël Giraud.
Bonsoir.
Merci d'avoir rejoint notre Club des Idées. Alors ce soir, c'est un coup de griffe que vous nous proposez, avec d'abord un constat que vous déplorez. Le monde d'après, c'est un peu la résurrection du monde d'avant.
Oui, tout à fait. Rappelez-vous, le 16 mars dernier, le président de la République avait déclaré « Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant ». Alors certes, certaines choses ont changé, 1 million de chômeurs en plus, 10 points de PIB en moins et beaucoup de vélos supplémentaires sur nos pistes cyclables. Et pour le reste, il faut reconnaître que c'est l'éternel retour du même.
Alors à qui la faute, Gaël Giraud ?
La faute d'abord aux actionnaires qui continuent de vouloir faire des profits exorbitants. Quand je discute avec des capitaines d'industrie, qu'est-ce qu'ils me disent ? La plupart de ceux que je rencontre, en fait, ont très envie de s'engager dans la reconstruction écologique de notre continent. Et on l'a entendu d'ailleurs il y a peu lors des universités d'été du MEDEF. Certains me disent même, moi je voudrais bien investir dans le vert, mais c'est impossible tant que mes actionnaires me demanderont du 10-15% de rendement sur action par an et tant que mes cadres dirigeants ne voudront pas changer de mode de vie. Mais ça, c'était avant le confinement.
Alors on fait comment, Gaël Giraud, pour libérer nos entreprises du dictat, comme vous dites, actionnarial ?
Il faut s'intéresser aux fonds communs de placement et aux banques, Julien.
Oui.
Pourquoi ? Parce que nos grandes banques ont financé la révolution industrielle, puis la conversion de la société française à la consommation de masse durant l'après-guerre, qui était essentiellement basée sur le pétrole. Et la plupart de nos grandes banques ont donc dans leur bilan des centaines de milliards d'actifs liés aux hydrocarbures fossiles, charbon, pétrole, gaz. Imaginez donc que demain, nous décidions d'être sérieux et que nous interdisions la vente et l'achat de charbon.
Oui.
Si le charbon devenait un actif échoué, sa valeur de marché chuterait à zéro et creuserait des trous noirs dans les bilans des banques.
Je vous suis.
Plusieurs d'entre elles seraient en faillite, compte tenu de leur trop faible capitalisation, que Christine Lagarde n'avait pas eu de cesse de dénoncer lorsqu'elle était à la tête du FMI.
Elle est aujourd'hui à la tête de la Banque Centrale Européenne.
Absolument. Et beaucoup de nos banques savent donc que si nous devenons sérieux en matière écologique, elles mourront. Pire, comme l'a montré un récent rapport d'Oxfam, pour 10 euros de financement de l'énergie, nos banques continuent de créer 7 euros à destination des énergies fossiles. C'est vraiment le monde à l'envers.
Alors, cher Gaël Giraud, comment on fait pour sortir de ce piège que vous nous annoncez ce soir ?
Eh bien, certains voudraient que les contribuables, c'est-à-dire vous et moi, compensent les banques pour les pertes que va leur infliger la reconstruction écologique de l'Europe. Et à mon avis, c'est la pire des solutions. Privatisation des profits, socialisation des pertes. D'autres voudraient imposer la reconstruction écologique par des moyens autoritaires et nationaliser les banques en faillite.
Oui.
Mais heureusement, il existe une troisième voie. Inviter la Banque Centrale Européenne à racheter les actifs fossiles des banques à la condition que celle-ci s'engage à ne financer désormais que du vert. Alors, lorsque le prix de marché des énergies fossiles s'effondrera, bon, la BCE fera des pertes, mais ce n'est pas grave, c'est la Banque Centrale, la seule qui peut faire des pertes sans mourir, car elle peut se recapitaliser elle-même sans que cela nous coûte un centime.
Donc on efface la dette.
Alors, d'une certaine manière, c'est comme si on effaçait la dette, ce que je préconise aussi. Alors, le projet européen, dans ces conditions, pourrait repartir sur des bases saines, celles du monde de demain que nous voulons tous construire.
Oui.
Un monde où les banques pourront enfin jouer leur rôle qui est de financer la reconstruction écologique. Un monde où les entreprises libérées pourront inventer l'industrie verte de demain. Et un monde où l'État pourra remplir à nouveau sa mission de stratège au service de l'intérêt général de long terme.
Voilà le plan idéal de Gaël Giraud. Merci beaucoup Gaël pour cette carte blanche du Club
des
Idées.
Merci Julien.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec à 19h22, on est en direct, bien sûr, toujours, le grand débat du Club des Idées. Ce soir, les tests anti-Covid en question, alors que la hausse des contaminations, vous le savez, on en parle beaucoup, s'accélère. Un collectif de médecins met en cause la stratégie française. Il faut en finir, disent-ils, avec les tests ciblés, comme on le fait aujourd'hui. Ça n'est pas efficace, selon eux, et ça conduit à des files d'attente sans fin devant les laboratoires, on l'observe tous. Alors faut-il tout revoir ? Pour plus d'efficacité, à quand l'arrivée des fameux tests salivaires ? La polémique rebondit donc, et on en parle ce soir avec nos invités, Arthur Clément, médecin biologiste, gérant des laboratoires Clément et membre du bureau du syndicat des jeunes biologistes médicaux. On en parle également avec Martin Blachier, médecin épidémiologiste, spécialiste en santé publique. Bonsoir.
Bonsoir.
On en parle également avec le professeur Gérard Dubois, spécialiste de santé publique également et membre de l'Académie de médecine. Vous êtes d'ailleurs, professeur, l'un des signataires de cette tribune pour un dépistage massif. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Alors pourquoi, professeur, je vous pose la question directement, pensez-vous que la stratégie du gouvernement de dépistage ciblé n'est pas la bonne ? Et j'ai envie de vous dire pourquoi, à ce moment-là, ne pas l'avoir dit plus tôt ?
Alors, il y a une évolution quand on travaillait sur des clusters, je vais prendre une comparaison un peu osée, c'est comme si on travaillait sur des flaques dispersées. Là, maintenant, on est face à une marée. Ce n'est pas un tsunami, mais on est face à une marée et on ne sait pas très bien ce que ça va devenir. On peut faire des pronostics dans un sens ou dans un autre. À un moment, on disait, bon, les cas augmentent, mais finalement, les hospitalisations n'augmentent pas, la réanimation n'augmente pas, les décès n'augmentent pas. Bon, on y est maintenant, ça commence. Et on sait que les exponentielles, au début, c'est calme et tranquille, et puis ça vous explose à la figure quand ça se décide à monter. Donc, en fait, on a tient un raisonnement qui est relativement simple. C'est on a 41 000 tests qui ont été faits dans 15 études qui montrent approximativement, y compris d'ailleurs l'étude sur le porte-avions Charles de Gaulle, qui montre que la moitié des positifs n'ont pas de symptômes.
Oui, c'est une étude qui porte sur 41 000 tests et qui montre que 53% des testés positifs ne présentent pas de symptômes cliniques. En clair, ça veut dire qu'un porteur du virus sur deux passe aujourd'hui entre les trous de la raquette ?
Exactement. Donc, ça veut dire que la moitié des personnes infectantes sont des porteurs sans symptômes. Donc, si on cherche que cela, on rate la moitié de la cible. Alors, pire encore, pratiquement un malade est contagieux pendant 10 jours, 4 jours avant les symptômes, quand il en a, et 6 jours après. Si on attend les symptômes, vous perdez déjà 4 jours. Mettons qu'il faut 2 jours pour avoir un rendez-vous et qu'on vous rend le résultat 2 à 4 jours après. Eh bien, pratiquement, ça veut dire que c'est au moment où vous n'êtes plus contagieux qu'on va vous isoler. Je caricature un peu, mais on voit très bien la perte de temps.
Donc
absolument
vous dites, c'est une question
qui a lieu à ce moment-là.
C'est une question de bon sens. On va demander à Martin Blachier ce qu'il en pense, médecin épidémiologiste. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste donc en santé publique. Est-ce que d'abord vous êtes d'accord avec ce constat ? La stratégie du gouvernement de tests ciblés n'est plus adaptée à la circulation aujourd'hui du virus ?
La stratégie de test ciblé, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de stratégie. Les gens sont testés s'ils ont envie d'aller se faire tester dans les
laboratoires. Oui, mais l'idée, c'est de se faire tester quand on a des symptômes, quand on a un doute et quand on est un cas contact. Donc, il y a une forme de ciblage.
Oui, tout à fait.
Il n'y a pas des drives comme en Allemagne où on peut aller se faire tester du matin au soir en quelques minutes.
Absolument. Je pense qu'on est déjà au maximum, c'est ce que le ministre a dit, de la capacité de test en France.
Aux alentours d'un million par semaine, a-t-il dit.
Voilà, exactement. C'est le maximum, c'est le pays où on teste le plus d'Europe.
Ouais,
tout à fait.
C'est important de le
on
dire.
C'est le pays où on teste le plus d'Europe.
Ça veut dire qu'on était très en retard des autres et maintenant on est le pays où on teste le plus. Plus que l'Allemagne.
C'était notre objectif en
plus
fait.
Plus que l'Espagne.
L'objectif c'était de faire toujours plus de tests. Effectivement, ça ne marche pas puisque même en faisant un million de tests par semaine, on arrive à probablement identifier un quart ou 15% des infections réelles. Donc aujourd'hui, il faut le dire, la stratégie de dépistage n'a aucun impact sur l'épidémie.
Aucun impact sur l'épidémie.
Aujourd'hui, vous arrivez à isoler, vous arrivez à casser peut-être 20% des chaînes de contamination. Donc vous avez 80% des chaînes de contamination qui continuent de progresser tranquillement. Mais ce n'est pas lié à la stratégie de test, c'est lié au fait que cette épidémie n'est pas contrôlable uniquement par du dépistage et du contact tracing.
Arthur Clément, vous êtes médecin biologiste. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que aujourd'hui, ces tests n'ont aucun impact sur la circulation du virus ?
Je pense que la stratégie de test, elle est la bonne. Mais par contre, son applicabilité en pratique, elle n'est pas la bonne. Vous parliez des patients symptomatiques et des cas contacts. Ça fait effectivement partie des patients que l'on teste. Mais il ne faut pas oublier qu'on a une grande majorité de patients autres pour d'autres indications de test. Patients anxieux qui viennent sans ordonnance au laboratoire, patients préopératoires, patients pour des voyages, qui embolisent le système et qui, du coup, nous permettent de ne pas tester les patients qui en ont réellement besoin dans les délais. Il faut quand même rappeler également...
Donc, il y a une responsabilité individuelle. On va continuer d'en parler dans quelques secondes, 19h27. On est toujours en direct dans le Club des idées. On va continuer à parler de cette stratégie de test qui, aujourd'hui, c'est vrai, pose question. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h30, on est toujours en direct dans le grand débat du Club des idées. Et ce soir, on parle de la stratégie gouvernementale française des tests. La hausse des contaminations, vous le savez, s'accélère. Eh bien, un collectif de médecins met en cause la stratégie française. Il faut en finir, disent-ils en substance, avec les tests ciblés comme on le fait aujourd'hui. Ça n'est pas efficace. On en parle avec Martin Blachier, vous êtes médecin épidémiologiste. Avec Arthur Clément, vous êtes médecin biologiste, gérant des laboratoires, notamment Clément. Avec le professeur également Gérard Dubois, spécialiste de santé publique et membre de l'Académie de médecine. Vous êtes, je le rappelle, l'un des signataires de cette tribune pour un dépistage massif et on en parle également avec Vincent Hénouf, responsable adjoint du Centre national de référence virus des infections respiratoires à l'Institut Pasteur. Vincent Hénouf, vous nous avez rejoint. Quelle est votre position, vous, sur cette stratégie française des tests ?
On avait dit, il faut tester massivement. On a l'impression, en tant que simple citoyen, que ça y est, on y est. Et puis on nous dit aujourd'hui, finalement, cette stratégie, elle ne fonctionne plus. Pourquoi ?
Moi, ce que je remarque, en tous les cas, ce que l'on me dit, c'est que les résultats tombent pas dans la journée, ils tombent voire 2, 3, voire 4 jours après.
Donc c'est le délai qui est trop long ?
C'est le délai beaucoup trop long, parce que si on établit du tracing derrière pour justement vérifier les personnes en contact, 3-4 jours, vous avez le temps de rencontrer d'autres personnes. Donc il faudrait que les gens se fassent tester et qu'ensuite ces personnes, si elles ont des doutes, restent chez elles pour éviter toute éventuelle nouvelle contamination. Donc ce n'est pas du tout, à mon avis, ce qu'il est entendu de faire actuellement. Il faudrait peut-être y trouver une solution pour diminuer ce délai de rendu de résultat qui devrait être au pire dans le lendemain. Parce que là, c'est beaucoup trop long pour faire quelque chose d'efficace.
Alors Arthur Clément, médecin biologiste, question pour vous. Comment peut-on faire pour réduire les délais ? C'est vrai que je voudrais qu'on entende quelques Français, parce que c'est des reportages qu'on a beaucoup fait ici à Europe Soir, des Français qui passent parfois 3 heures, 4 heures dans les files d'attente devant les laboratoires. Alors c'est principalement le cas en Ile-de-France, mais pas que, c'est le cas aussi partout en France. Ils attendent et ils ont les tests, vous le disiez monsieur, 2 jours après. Écoutez.
Ça fait 3 fois que je viens et que c'est fermé. C'est pas possible, ça. Écoutez, on est dans une crise. Ils devraient s'organiser pour qu'on puisse faire des tests davantage. Il n'y a pas assez, on ne peut pas assez.
Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait face à cela, Arthur Clément ?
Alors, je voudrais rajouter et compléter par rapport à ce qui a été dit que 54% des résultats, sources du ministère de la Santé, sont disponibles dans les 24 heures. 80% des résultats sont disponibles dans les 36 heures. Donc, effectivement, il reste des cas de patients pour lesquels les résultats sont disponibles plus tard. Si on adopte une politique de priorisation qui est efficace, parce qu'actuellement, elle n'est pas efficace.
Priorisation, ça veut dire quoi ?
Alors, dans les laboratoires, nous avons mis en place un système de priorisation. On suit des recommandations de la Direction Générale de la Santé. On a 3 priorités. Les patients les plus prioritaires sont les patients symptomatiques. Les deuxièmes patients prioritaires sont les patients cas contact de patients confirmés positifs. Mmh. Et on a un panier de patients non prioritaires.
Mais qui définit ça ? C'est-à-dire qu'on vient et c'est juste du déclaratif ?
Exactement, et c'est là le problème. Et c'est là
c'est
où
du
on
déclaratif.
C'est là où on perd en efficacité.
N'importe qui raconte
c'est
n'importe
quoi. C'est là où on perd en efficacité. Ah oui. Comme les prélèvements sont sans ordonnance, les patients viennent au laboratoire et se déclarent symptomatiques et donc passent prioritaire alors qu'a priori leur état.
Est-ce que vous avez aussi des gens qui viennent se faire tester parce qu'ils pensent qu'ils sont asymptomatiques, qu'ils n'ont pas de symptômes ?
On a également des patients asymptomatiques qui sont testés et qui représentent à peu près 40% des patients au total.
40% des patients.
En incluant les patients de voyage et les patients préopératoires dont on parlait plus tôt.
Et dernière question, pour ce volant de questions, est-ce qu'il y a aussi des gens qui reviennent régulièrement ? Vous parliez tout à l'heure du fait que les laboratoires sont pris d'assaut, qu'il faut parfois attendre des heures et des heures. On entendait cette dame au micro d'Europe Soir. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent tous les jours et qui ne sont pas civiques d'une certaine manière ?
On a également, et c'est plus rare, des patients effectivement qui viennent régulièrement, peut-être pas tous les jours, mais tous les 2 jours, tous les 3 jours. C'est plus rare, il faut le préciser, mais on souhaite faire quand même un appel au civisme des Français dans l'utilisation des tests. On parlait du civisme dans les masques, mais dans l'utilisation des tests, on peut également avoir ce genre de réflexion.
Alors, je voudrais vous interroger sur un changement de stratégie qu'a opéré le gouvernement. C'était le 14 juillet, lors de la prise de parole du chef de l'État.
Ce qu'on va encourager, c'est de permettre à toute personne sans prescription médicale, même quand elle n'a pas de symptômes, si elle a un doute, une crainte, de pouvoir aller se faire tester. Parce que c'est une bonne manière ensuite, une fois qu'on est testé, d'être isolé et de réduire la diffusion.
Professeur Gérard Dubois, vous êtes spécialiste de santé publique, membre de l'Académie de médecine, vous êtes signataire de cette tribune qui demande au gouvernement de revoir sa position sur la stratégie des tests. Est-ce que vous dites, le 14 juillet, le chef de l'État a fait une erreur ? Nous n'aurions pas dû, le gouvernement n'aurait pas dû permettre à chaque citoyen de se faire tester sans ordonnance.
Non, au contraire, c'est ce qu'on demande. Alors, je voudrais simplement rappeler que nous sommes absolument favorables aux mesures barrières. Donc, il faut être très clair sur le sujet. Nous sommes favorables, bien sûr, à ce que soient testés ceux qui sont symptomatiques.
Je crois que les mesures barrières, on les a bien compris, on nous les répète du matin au soir.
Oui, mais il faut quand même le préciser qu'on n'est pas du tout opposé. Au contraire, on est absolument favorable. On est favorable au fait que l'on diagnostique, c'est pas du dépistage, que l'on diagnostique chez le Covid-19 et le SARS-CoV-2, le virus, chez les symptomatiques et qu'on le recherche chez les contacts. Donc, c'est en plus où nous disons il faut tester massivement pour trouver les porteurs asymptomatiques. Donc, ça n'est pas une opposition.
Alors, le problème qui se pose, professeur, quand vous regardez... Pour les gens qui nous écoutent, pour être tout à fait clair, de quelle manière on teste massivement ? C'est-à-dire qu'on fait des drives, comme en Allemagne, sur les aires d'autoroute, au péage, là où il y a du passage, pour que les gens, en quelques minutes, puissent se faire dépister. C'est ça l'idée ?
La question qui se pose, c'est que les pays qui réservent le test uniquement aux symptomatiques ont beaucoup de morts. Bon, et on a expliqué pourquoi tout à l'heure. Les pays comme la Chine, par exemple, Pékin, où il y a une résurgence du virus, a fait 2 300 000 tests en 10 jours et a bloqué le développement de l'épidémie. En France, le 18 août, on faisait 700 000 tests en une semaine. Avec des efforts de mesurer, aujourd'hui, on arrive à 1 million sur une semaine. C'est loin de ce qui est nécessaire. Alors, quand on regarde le nombre de laboratoires, on va pas changer ça maintenant. Le nombre de lieux de prélèvement, il y a déjà des efforts qui sont faits, on peut aller plus loin. Le nombre de préleveurs peut être augmenté et il y a un travail qui est fait à ce niveau-là.
Bien.
Mais il y a un problème de disponibilité des réactifs, notamment, qui commence à être en tension. Alors, on est dans une situation où il faut où la capacité à tester est saturée et où il faut faire plus de tests et surtout ne pas les réserver qu'aux seuls symptomatiques et
oui,
contacts.
C'est important
ce que
de
nous
le rappeler.
Proposons, oui. C'est une modalité qui permet d'utiliser beaucoup moins de réactifs, c'est ce qu'on appelle les tests groupés. Alors, il y a une espèce
Alors,
de guerre de religion à ce niveau-là.
Ce que je vous propose, parce que je voulais vous interroger sur cette question, on marque une courte pause et on en parle dans quelques secondes avec nos invités en plateau. 19h37, on est toujours en direct dans le Club des Idées. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h39, on est toujours en direct dans le grand débat du Club des Idées. On parle de la stratégie française des tests anti-Covid qui pose question. C'est ce que met en exergue un collectif de médecins qui met en cause la stratégie française. Il faut en finir, disent-ils, avec les tests ciblés comme l'on fait aujourd'hui. Il faut tester plus massivement pour pouvoir détecter aussi tous les Français qui seraient asymptomatiques, c'est-à-dire qui n'ont pas de symptômes mais qui sont tout de même porteurs du virus. Peut-être d'ailleurs juste un mot sur l'état de circulation aujourd'hui du virus avec vous Vincent Hénouf, vous êtes responsable adjoint du Centre National de Référence Virus des Infections Respiratoires à l'Institut Pasteur, un peu plus de 6000 nouveaux cas diagnostiqués sur les dernières 24 heures, 91 nouveaux clusters identifiés, ça veut dire que le virus circule énormément et c'est vrai qu'on est dans une augmentation assez forte depuis quelques semaines de cette circulation.
Alors, je ne dirais pas énormément, il circule comme il n'a jamais arrêté de circuler.
On était à moins de 1000 cas diagnostiqués il y a encore quelques semaines.
Je suis d'accord, mais bon, c'est pas comme au mois de mars dernier. En tous les cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'a jamais arrêté de circuler. C'est-à-dire qu'on a toujours eu des clusters durant l'été, enfin ça ne s'est jamais arrêté. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y a cette augmentation ?
L'indice de contagion, on est passé à 1,2, 1,3, disait ce matin le ministre de la Santé, Olivier Véran. Ça veut dire qu'une personne contamine plus d'une personne.
Plus d'une personne, donc c'est là où on parle justement de la capacité du virus à se diffuser dans la population. Donc ça c'est ce que l'on observe aujourd'hui. On observe aussi une augmentation des cas de réanimation due au Covid-19 dans certaines régions. C'est toujours encore très régional.
Notamment dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille.
Donc ça, c'est quelque chose où il faut être très attentif. Il y a une augmentation, et ça, on le sait. Au niveau des tests, quels sont les tests qui sont les plus réalisés aujourd'hui ? Ce sont des tests de type PCR.
Oui.
On ne parle plus des tests sérologiques, ou en tous les cas, beaucoup moins, car ce ne sont pas eux qui peuvent dire si vous êtes infecté ou pas. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Et puis après, vous avez d'autres tests, et notamment qui sont en cours d'évaluation, que ce soit par les hôpitaux ou par le CNR, sur d'autres substances, en fin de compte. On parle de la salive.
Ouais.
On parle de...
Des tests salivaires. Et puis Olivier Véran annonce aujourd'hui que des tests rapides seront prochainement déployés en Île-de-France dans un premier temps. On va en parler tout à l'heure. On parle de tests antigéniques. Voilà, vous m'expliquerez tout à l'heure de quoi il s'agit. Je voudrais qu'on bondisse sur ce que disait le professeur Gérard Dubois juste avant la pause avec vous, peut-être Martin Blachier. Le professeur disait il faut changer la manière de tester et élargir le spectre des campagnes de dépistage. On parle d'une technique qui s'appelle le pooling, c'est-à-dire tester des groupes de personnes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots simples de quoi il s'agit ?
Il s'agit de prendre des échantillons, je suppose, de plusieurs patients et de les tester ensemble. Donc on ne saura pas qui est positif, mais si l'échantillon groupé s'avère positif, on va tester chacune des personnes qui ça permet d'augmenter la sensibilité et la capacité de testing sur l'idée, je suppose, des gens qui ont écrit cette tribune, qu'il faut tester massivement. L'exemple qui a été pris, c'est l'exemple de la Chine. Je voudrais juste réagir sur l'impossibilité de comparer le modèle chinois, le modèle allemand au modèle français.
Pourquoi ?
Parce qu'en fait, une stratégie de circulation zéro ne peut pas être appliquée quand vous avez la circulation qui est celle qui est aujourd'hui. Donc en fait, en Chine, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont des mesures barrières 10 fois ce qu'on a aujourd'hui. Ultra sérieux. Donc ils ont quasiment aucune circulation virale. À chaque fois qu'ils ont des cas qui sont détectés, ils bouclent la zone, ils testent tout le monde dans la zone, ils nettoient la zone.
Voilà. Mais vous n'allez pas nettoyer la France entière, parce que le virus, il circule partout en France. Donc c'est une stratégie qui est totalement inapplicable. Donc je veux dire que cette tribune, elle est intéressante, mais pour moi, elle est à contre-courant de la phase qu'on traverse aujourd'hui. Donc, mesure barrière très importante.
Oui.
On redescend la circulation virale, et après, on pourra commencer à avoir les stratégies des pays qui sont à zéro circulation virale.
Arthur Clément, cette stratégie de pooling, est-ce que les laboratoires ont les moyens humains et puis matériels de la mettre en place ?
Alors, c'est une stratégie qui peut être intéressante pour augmenter la capacité de test. Il faut préciser quand même que l'on perd en fiabilité au niveau du test hein, par rapport à un test unitaire. Et pour augmenter en capacité, par contre, ce dont on aurait vraiment besoin, effectivement, comme vous le disiez, c'est à la fois plus de ressources humaines. Ce sont des choses que l'on rapporte aux ARS de façon hebdomadaire depuis plusieurs mois. Et également, donc à la fois, on parle de ressources humaines, à la fois la partie administrative, enregistrement des dossiers oui. par les secrétaires, et également les prélèvements. Et oui. on a besoin également de plus de réactifs, mais aussi d'automates. J'ai fait moi-même une commande d'automates en juillet, qui me sera livrée en avril 2021. Oui. Parce qu'on est sur une demande internationale, avec beaucoup de pays qui veulent être livrés en même temps, et la France n'est pas nécessairement prioritaire.
Professeur, en quelques secondes, s'il vous plaît, le pooling, c'est une stratégie qui, au vu des moyens humains et matériels qu'on a aujourd'hui en France, est applicable et possible ?
Oui, c'est tout à fait applicable. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'on en a besoin maintenant. Alors, même s'il y a une petite perte de fiabilité, pour donner une petite idée, on pourrait réaliser 3 millions de tests par semaine sans gros efforts avec cette technique qui n'a rien de révolutionnaire. Elle était utilisée lorsqu'il fallait faire des dépistages de masse, par exemple, dans l'armée. Alors, attendre des nouveaux tests, ils arriveront trop tard, comme les appareillages arriveront trop tard. Donc, il y a différentes façons de perdre des guerres. C'est de ne pas être prêt quand elles commencent, et d'attendre l'arme miracle pendant la guerre. Donc, attendre les armes miracles, et bien pendant ce temps-là, les gens vont mourir. Donc, la stratégie actuelle,
les
nous
gens
répétons,
vont mourir, mais
n'est pas mauvaise.
Moins quand même aujourd'hui,
il faut
professeur.
Ajouter. Oui, mais il faut ajouter, j'insiste là-dessus,
oui.
à ce qui se fait aujourd'hui, il faut ajouter le dépistage massif pour trouver les porteurs asymptomatiques.
Oui.
Et cette technique qui est au niveau du laboratoire, qui n'est pas très compliquée, permettrait d'augmenter considérablement.
Faire.
C'est sur ce point que nous voulons attirer l'attention. Et ça permettrait, rendez-vous compte, on n'a pas été fichu jusqu'à maintenant, de faire un sondage sur la population française pour connaître le niveau de contamination sur un échantillon représentatif. On a mis en évidence le virus dans les eaux usées. Eh bien, on pourrait surveiller les eaux usées et remonter les réseaux d'eau usée pour retrouver où se trouvent
voilà.
les cas. On disposait de moyens supplémentaires, il y a des choses supplémentaires qui pourraient être faites. J'insiste Bien. Sur le supplémentaire.
Supplémentaire. Merci professeur. On marque une dernière pause et puis on se retrouve pour la dernière partie donc, du débat du Club des Idées. On parle de cette stratégie des tests et de la manière dont on peut faire plus aujourd'hui en France. À tout de suite.
Europe 1. Europe Soir. Le 18-20. Julien Bugier.
Et on est toujours en direct dans le Club des Idées, le grand débat du Club des Idées. On parle ce soir des tests anti-Covid en question, puisque plusieurs grands noms de la médecine remettent en cause la stratégie française qui est de tester un public ciblé. Notamment, ils disent qu'il faut tester plus largement. Voilà, on en parle avec nos invités depuis un peu plus de 30 minutes maintenant, avec notamment Martin Blachier, médecin épidémiologiste, spécialiste en santé publique, avec Arthur Clément, médecin biologiste, gérant des laboratoires Clément et membre du bureau du syndicat des jeunes biologistes médicaux, avec le professeur Gérard Dubois également, et avec Vincent Hénouf, responsable adjoint du Centre national de référence virus des infections respiratoires à l'Institut Pasteur. Alors, c'est vrai qu'on évoquait les tests qui vont bientôt arriver sur le marché en Île-de-France. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé ce matin des tests antigéniques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, des tests antigéniques, Vincent Hénouf ?
Alors, c'est une autre solution de détecter le virus. Techniquement, ce sont des anticorps qui vont détecter directement le virus sur des cassettes unitaires. C'est-à-dire que on n'est pas du tout...
Et ça se fait toujours par le nez ?
Alors, vous pouvez faire des prélèvements nasopharyngés, oui, en effet, par le nez, ou alors utiliser aussi la salive, qui n'est pas encore complètement qualifiée.
L'avantage, c'est qu'on a les résultats en 15-20 minutes, c'est ça ?
Alors, c'est ce qui est dit.
Oui.
Maintenant, nous, tous les cas à Pasteur, au CNR, on n'en a pas eu encore entre les mains. Il faut évaluer leur sensibilité, il faut évaluer leur spécificité. Et par rapport à ces valeurs que l'on obtiendra, c'est dire ils sont utilisables dans tel ou tel contexte. Parce qu'en effet, il faut multiplier les types de tests pour éviter d'interrupture à un moment donné. Mais je ne suis pas certain que ces tests antigéniques soit utilisable à très très grande échelle. Oui. Est-ce que ce sont eux qui vont augmenter le nombre de tests ? Peut-être un petit peu, mais pas à grande
échelle. On dit que ça pourrait être utile, par exemple, dans les gares ou dans les aéroports pour tester rapidement les gens qui arrivent sur le sol français de l'étranger. Arthur Clément, on dit aussi qu'ils détectent moins d'individus infectés que l'examen par PCR. C'est moins fiable, en somme.
Ah oui, c'est ce qu'on disait, ils sont moins fiables. Donc,
mais beaucoup moins fiables.
Alors, comme le disait Vincent Hainouf, je n'ai pas non plus eu entre les mains les tests, donc je ne peux pas vous parler de leur spécificité et de leur sensibilité diagnostique. Je ne connais pas leur fiabilité. A priori, ils sont moins fiables. S'ils étaient miraculeux, je pense qu'ils poseraient aussi le problème de leur utilisation en pratique. Et je ne pense pas qu'on pourrait les utiliser à grande échelle parce qu'on voit qu'on est sur des problématiques de tension sur tous les réactifs et les automates. Et
voilà,
je pense
vous êtes tous les deux très diplomates, mais ce que vous êtes en train de me dire, c'est que c'est une annonce d'abord politique, ces nouveaux tests. Martin Blachier.
Bon, de l'autre côté de l'Atlantique, ils sont plus emballés par les tests antigéniques. Il y a beaucoup de tribunes qui sortent en ce moment parce qu'il y a des grands laboratoires qui en ont sorti et l'État américain en achète énormément. Et eux, ils sont sur une stratégie d'utilisation massive de ces tests par, j'ai envie de dire, tout le monde. C'est-à-dire que ce seraient des tests qui seraient réalisables par les pharmaciens, par les médecins, par les gens eux-mêmes. Et ce serait en fait du testing de grande échelle. Je rappelle que c'est des tests qui coûtent $5 aux États-Unis avec une promesse de rendu en 15 minutes. Donc oui, c'est vrai oui. Que si cette promesse, elle est rendue, et il y a des articles qui disent que ça pourrait, dans certains cas, être pas loin de la sensibilité de la PCR. Donc en tout cas, c'est vrai que ce serait un game changer si jamais ces promesses étaient tenues.
Arthur Clément.
L'autoprélèvement, c'est peut-être quelque chose d'intéressant, mais il faut faire attention malgré tout, parce qu'on est sur une thématique très importante et on ne peut pas laisser une circulation virale se faire sur la base de mauvais prélèvements par les patients. Donc je pense qu'il est préférable que les prélèvements soient faits dans un contexte monitoré, fait par des professionnels de santé.
Dans vos laboratoires.
Dans des laboratoires.
Bien. Alors vous savez que chaque soir, on a une chronique dans le Club des idées qui s'appelle « Le jour où on plonge dans les archives d'Europe Soir » pour éclairer l'actu. 3 minutes pour comprendre. Alors souvent, on plonge un peu loin. Eh bien ce soir, on va plonger un peu moins loin. Vous allez comprendre pourquoi. Le jour où...
Une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos.
Voilà. Bonsoir Théo
Manval. Bonsoir Julien.
Vous nous avez rejoint en studio dans Europe Soir. Alors avant le débat sur les tests et notre stratégie, hein, on vient d'en parler, avant même le confinement, avant les mesures de distanciation, avant tout ça, il y a eu le début de la crise, ces jours où le coronavirus ne nous inquiétait pas du tout et ça n'est pas si loin.
Ouais, la toute première fois qu'on en a entendu parler de ce coronavirus, c'est le 5 janvier de cette année, ça paraît déjà une éternité. On ne dit pas coronavirus à ce moment-là, on dit mystérieuse pneumonie en Chine autour d'une ville appelée Wuhan. Les autorités chinoises communiquent très peu et les médecins, comme ici à l'hôpital de Wuhan, font tout pour rassurer. Au micro de notre correspondant Sébastien Le Belzic.
On s'assure que les personnes ne sont pas malades avant de les laisser partir. Ils ne doivent pas avoir de fièvre. On examine aussi leurs poumons pour être certain qu'ils ne sont pas infectés.
11 morts pourtant en Chine fin janvier, mais ici en France, ce qui fait surtout parler, c'est la grève qui dure à la SNCF, la fuite rocambolesque de Carlos Ghosn au Liban. Le 24 janvier, on a bien 3 premiers cas, des touristes chinois hospitalisés dans l'Hexagone, mais les scientifiques à l'époque ne s'alarment pas encore à l'image du professeur Yazdan Pana.
Il y aura probablement des cas aussi en Europe. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura une épidémie en Europe ou aux États-Unis. Il y aura des cas importés, mais pas de transmission.
Pas de transmission, pense-t-on à l'époque. Il faut dire qu'on en sait encore trop peu sur ce virus. Plus contagieux, mais moins puissant, nous dit-on, que son cousin le SRAS en 2003. Malgré cela, on commence tout de même à voir partir les boîtes de masques chirurgicaux dans les pharmacies. On ne compte toujours que 3 cas avérés dans l'Hexagone quand la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, prononce ces mots.
Aujourd'hui, il n'y a aucune indication pour la population française à acheter des masques. C'est totalement inutile. Ce sont des masques qui sont uniquement utiles quand on est soi-même malade pour éviter d'envoyer des microbes à son entourage.
La réalité, on le saura plus tard, c'est qu'on en manque de masques. Mais ce ton rassurant infuse. Au même moment, des contrôles médicaux sont mis en place aux aéroports pour les vols en provenance de Chine. Et clairement, les passagers français paraissent bien moins soucieux que leurs voisins de fauteuil chinois.
Il y a beaucoup de place libre dans cet avion. Ils ont des gants, ils ont des masques. Il y a une hôtesse qui a son gant s'est fait percer tout de suite. Elle a hurlé à une collègue de lui remplacer ses gants.
Je crois que le gouvernement français fait pas trop de choses. Parce qu'au début, en Chine, tout le monde croit que c'est pas très important. Mais maintenant, il y a trop de stress.
Oui, et c'est tout juste ce qui s'est passé, parce que cette légèreté chez nous va perdurer malgré les signes qui s'accumulent.
Et oui, le premier cluster en Haute-Savoie le 9 février, le premier mort français dans l'Oise le 15, des villes entières se reconfinent chez nos voisins en Italie. Le 1er mars, pour la première fois, interdiction de rassemblement prononcée en France dans 5 communes de l'Oise. Votre serviteur est en reportage à Crépy-en-Valois où le marché de plein air a été annulé, micro tendu du coup dans un supermarché.
On va pas faire comme tout le monde. Hier, je voyais des gens qui mettaient des désinfectants sur les boîtes de concert, tout ce qui touchait, mais il faut arrêter là. Et c'est pas la peste là, le truc. C'est comme une grippe. Hein.
Il faut bien avouer qu'on a probablement acquiescé nous aussi à l'époque de l'autre côté du micro. Pourtant, la suite, on la connaît. Le tsunami qui frappera 2 semaines plus tard les hôpitaux, la peur qui s'installe, abstention record au premier tour des municipales et une France qui finit par plonger dans 55. 5 jours confinés.
Voilà, merci pour ces archives. C'est toujours instructif de remonter le temps avec les archives d'Europe Soir. Merci Théo. Une réaction, Vincent Renouf ?
Non, c'est en effet, ça s'est passé.
On a l'impression que c'était il y a un siècle déjà.
Au niveau
c'est
des
fou.
Masques, en effet, on en manquait. Donc c'était vraiment, ouais. On avait plutôt tendance à dire qu'il fallait les laisser pour toutes.
Les soignants notamment.
Les soignants, etc. Donc en fin de compte, il ne faut pas tout sortir du contexte et laisser les choses dans leur contexte. Et vous l'avez très bien fait.
Bien, merci à tous les trois. Merci aussi. Professeur d'avoir été avec nous, professeur Gérard Dubois d'avoir été avec nous à distance par téléphone. On se retrouve demain, même lieu, même heure, à partir de 18h pour le Europe Soir, vous en avez l'habitude maintenant, et avec le Club des Idées, on écoute le monde changer sur Europe 1 et on prend le temps de se faire surtout son opinion. Dans un instant, Émilie Mazoyer pour la musique et un peu de détente, ça fait du bien. À demain, ciao.